Effet sport. Effet sport. Effet sport.
Rediffusion. Pour écouter Effet sport en direct, rendez-vous lundi à 20h sur Calade.
Are you ready?
Calade 100.9.
Wrestling fans, are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Calade 100.9. Et oui, évidemment, il y a pas mal de monde dans le studio, il y a pas mal d'agitation, mais ça va être une belle émission. On est ensemble comme tous les débuts de semaine, hein, on démarre la semaine ensemble, vous avez désormais l'habitude. Une heure ensemble pour parler de sport, pour parler de toute l'actualité qui s'est passée ce week-end et puis également un peu la semaine précédente. Alors autour de la table, voilà, la table est complètement complète, il n'y a plus de place. Et je commence par Coach Judou qui est de retour avec nous. Bonsoir Coach.
Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir à nos invités.
Caps est avec nous ce soir aussi.
Et bonsoir, Guigui, bonsoir à tout le monde, à nos invités et à toute l'équipe.
Bonsoir Eddy,
salut.
Tu es avec nous. Simple, court et efficace. Ouais. Et alors deux invités ce soir pour parler alors, de rugby notamment, hein, puisqu'avec la belle saison du CSV, on a Xavier Bombéa avec nous ce soir. Bonsoir Xavier.
Salut.
Et puis Bertrand Nogier qu'on a eu régulièrement au téléphone pendant la saison et qui est avec nous en studio cette fois-ci. Bonsoir Bertrand.
Ils sont là tous les deux, ouais. C'est cool, c'est sympa.
Le staff du CSV, on va avoir du coup une grosse partie rugby pendant les...
Ah, ça change grand, pas de sport.
On a plein de questions à leur poser.
On a plein de questions et puis
tout
surtout,
savoir.
La saison a été belle et puis coach,
il attaque direct. Toi,
voilà, hein. Il attaque direct fort, mais c'est bien, c'est bien. Ça va être une belle émission. Dans une deuxième partie de l'émission, on parlera aussi de vélo. Hein, alors, je ne sais pas si nos invités sont amateurs de vélo, mais pourquoi pas, à la limite. Hein. Oui, non, apparemment, non.
Il suffit, moi, je suis
une moue dubitative.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Le dimanche.
Ouais.
Quand j'ai pas rugby.
Bah, pourquoi pas.
Il y a une grosse actualité cyclisme.
Oui, en plus, grosse actualité. Et puis, on terminera avec un multisport, hein, désormais, vous en avez l'habitude, le tour d'horizon de l'actu sportive.
La course de côte de Marchand.
Voilà, encore du sport.
Il s'est passé des trucs.
Il
s'est passé plein de trucs.
De roues, voilà. On commence avec le rugby. T'es prêt, coach? Enfin, on parle de sport.
Ouais.
Voilà, ah, bah, c'est parti.
Effet sport.
Effet sport.
Effet sport.
Alors la saison du CSV, hein, coach, elle était belle.
Eh ben c'est plutôt une belle saison. Alors je vais donner les chiffres comme ça, ça sera fait, on est d'accord. Donc il y a eu un total de 26 matchs. Après vous m'arrêtez si je me trompe, hein, au total, hein. Phase finale plus championnat compris.
En fédéral 2, en championnat de France de fédéral 2.
Donc 80% de victoires, ça fait 20 victoires, ce qui est pas mal. Sur 26 matchs, c'est carrément bien même. 16% de défaites, donc ça en fait 5. Et un nul, ça fait 4%.
C'est ça.
C'est une
belle statistique,
belle statistique, mon ami.
Non, mais c'est super bon. Hein. En championnat, c'est à domicile, c'est 9 victoires, une seule défaite, et c'était contre Nuit-Saint-Georges.
C'est ça, ouais.
C'est propre.
Le chiffre à retenir, je pense, pour nous, qui nous satisfait surtout, c'est je pense qu'on est à 106 ou 107 essais marqués sur la saison.
Alors, j'ai pas le nombre d'essais, j'ai la différence.
C'est un festival, 200... chaque dimanche.
Vous êtes à plus de 184.
Oui, mais surtout le nombre d'essais, donc ça montre une qualité offensive quand même que nous avons eu toute l'année.
Non, c'est propre. Très, hein, donc à l'extérieur, c'est pareil, un bilan plutôt positif. Hein. C'est 8 victoires pour 2 défaites. C'était le premier match à Dole, de mémoire. Et à
qui avait très mal commencé.
Et à Nuit-on,
c'est ça. On perd à Dole.
Nuit-Saint-Georges.
Et on perd à Nuit-Saint-Georges, oui.
Bon, après Nuit-Saint-Georges, à domicile, la seule défaite qu'il y a eu, c'était 2 points.
Oui. On récupère un point de bonus défensif qui nous permet d'être premier de poule.
Oui.
Et donc de recevoir sur les phases finales.
Donc, moi, je me souviens, Bertrand, vous avez présenté votre saison dans un lieu de perdition à côté de Villefranche, non, au cabaret là-bas. Hein. Vous aviez présenté vos ambitions avec beaucoup, beaucoup de retenue. Hein. Vous n'osiez pas trop vous prononcer.
Ouais,
vous imaginiez vraiment faire un parcours, je dirais, pas si tonitruant, ou c'était juste parce que vous vouliez un peu vous cacher derrière votre petit doigt?
Non, il faut être réaliste. Il faut savoir que la saison, quand même, il y a un gros de la poule qui nous a facilité les choses. Alors, au début, ennuyé, et puis après, facilité les choses.
C'est Strasbourg.
Hein. Voilà. Donc, en partant au départ avec dans cette poule, on savait aussi que Nuit-Saint-Georges était une belle équipe, qui avait bien figuré l'année dernière, que mes yeux avaient des atouts et qu'il les ferait valoir. Donc, non, c'était au départ, c'était réaliste. Après, on a été étape par étape et on a su tout au long de la saison remplir les objectifs. Et le groupe, surtout, les joueurs ont su à chaque fois monter les exigences et faire en sorte que les objectifs qui étaient fixés soient atteints palier par palier.
Est-ce que pour vous, là, c'est un aboutissement du travail qui a été commencé l'année dernière?
Oui, enfin, c'est un aboutissement.
Alors, peut-être pas un aboutissement, les termes n'étaient pas bons, mais peut-être une, voilà, une suite logique en fait de ce qui a été fait, et on est dans la progression, et voilà.
Ah, on est, oui, effectivement, l'année dernière, il y avait des choses qui étaient très bonnes. Hein. Après, on a eu des blessures à des postes clés qui nous ont beaucoup handicapés. Cette année, on a été épargnés. Ça aussi, c'est positif, et vraiment, on a joué de chance là-dessus parce que en quantité, l'effectif était pas des plus pléthores. Par contre, en qualité, il y avait ce qu'il fallait. Donc là-dessus, on a joué de chance. Et effectivement, la saison dernière, notamment cette victoire qu'on a fait à Saint-Priest, a conditionné les choses et a montré notre potentiel. Et après, je vous dis, en gardant notre effectif et à des postes clés des joueurs que moi je qualifie de capital, ça a fait que la saison a pu bien se goupiller.
Ouais, donc match clé Saint-Priest. Hein.
L'année dernière
et cette année, est-ce qu'il y en a un à sortir du lot?
Il y a Dole à la maison, qui était vraiment un match abouti, il me semble. Vous avez me dira. Ouais. Après, je dirais qu'il y a aussi quand même dans Rieux, pour un contexte qui nous permet aussi de valider notre première place, qui est un match qui nous fait prendre confiance aussi, et puis être dans l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, et puis les phases finales, Orsay aussi à l'extérieur, à Orsay. Ouais.
Alors c'était 15-15 de mémoire.
Non, ça c'est Anthony. Et là, celui-ci n'est pas du tout abouti.
Alors les plus et les moins de la saison. Ça c'est le petit jeu. On commence par les moins, comme ça on gardera les plus.
Les moins, il n'y en a pas beaucoup.
Ah, c'est bien. C'est bien d'entendre un coach dire ça quand même.
Vous échouez en quart de finale. C'était la possibilité de monter. Mais...
Les moins, c'est la saison qui s'arrête un peu trop tôt pour nous.
Ouais, voilà.
Et puis quelques blessures qui nous sont qui nous sont venues un petit peu trop tardivement dans la saison, qui a un peu handicapé aussi le groupe, qui était sur une dynamique de confiance avec des joueurs qui étaient impliqués pour arriver à atteindre un objectif qui était celui d'aller le plus loin possible. On s'était pas fixé de monter, ou même si on a été
prudent. Les phases finales étaient désignées de façon début de saison,
oui,
quand même.
Le but, c'était de se qualifier, voilà. De jouer nos matchs retour à la maison en phase finale.
Oui, ça, vous l'aviez annoncé.
C'était idéal après.
À la présentation d'équipe en début de saison. Je m'en souviens.
On ne pensait pas finir premier, comme a dit Bertrand, Strasbourg qui dépose le bilan. Ça nous a quand même enlevé une épine du pied, surtout des gros matchs à la maison qui nous attendaient et qu'on n'a pas joué. Voilà, après, ça a été bénéfique. Après, voilà, sur le petit bémol, c'est un petit peu... Nous, on est toujours un petit peu inquiet quand il y a un joueur qui se blesse. Ça fait toujours un peu mal pour nous, parce que... on les aime aussi, hein. Donc, on veut qu'ils
qu'il y a pas de tendresse dans le rugby, les gars.
Ça fait pas beaucoup de moins, en fait. De moments vraiment négatifs.
Non, après, les moins, je pense plutôt qu'on les trouve dans le jeu. Enfin, les moins, les plus dans le jeu. Il y a peut-être des choses qui sont plus négatives que d'autres.
Voilà. Les plus, c'est... vraiment un groupe qui a été présent toute l'année et qui s'est consolidé au fur et à mesure des victoires. Et puis bon, mais c'est les victoires qui font que le groupe se consolide. Ouais. Voilà, un véritable leader, capitaine. Ouais. Après, mais le collectif, non, Fabio Da Silva.
Fabio, pour
parce
moi.
Parce que PH a été blessé sur une durée, malheureusement pour nous. D'ailleurs, ça nous a handicapé aussi, mais là-dessus, un grand coup de chapeau à notre Fabio, capitaine, qui a su fédérer les choses, même si tous les autres, quand même, sont à mettre en avant aussi, hein, parce que la saison a été longue et l'effectif a toujours répondu présent. Et ça a toujours cherché à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Ça, c'est bien. Et puis, je vous dis encore, c'est 107 essais de marqués. Ça affiche une qualité offensive quand même que...
C'était votre but de produire du jeu, d'avoir une équipe qui fait du jeu.
Oui.
C'était vraiment votre philosophie rugby, je crois. Celle de Fabio, parce que ça me rappelle l'échange aussi que j'avais eu avec lui, en effet, en tout début de saison. C'est un joueur qui aime le jeu. Hein, et quelque part, il a entraîné les autres avec lui, non?
Ah, effectivement, enfin, nous en tant qu'entraîneur et puis le groupe et les leaders du groupe sont venus là pour jouer, prendre du plaisir avant tout. Alors après, il faut que ça gagne. L'année dernière, ça gagnait moins. Donc bon, mais en tout cas, oui, la philosophie de jouer, et d'ailleurs, on essaiera de la garder l'an prochain. Après, avec nos moyens, dans avec un challenge qui sera encore plus difficile. Mais oui, on essaiera de garder ça en tout cas.
Et dans les moins dans le jeu, la discipline peut-être.
La discipline, oui. C'est vrai que si, oui, effectivement. Notre indiscipline a fait qu'on a passé beaucoup de temps à 14 sur le terrain. Et encore une fois en quart de finale, on prend deux cartons blancs, donc on joue 20 minutes à 14. Et puis peut-être notre secteur défensif, mais comme offensivement on était tellement impliqués que après c'est difficile d'être équilibré. Alors il faut toujours être équilibré quand même. Hein. Mais là peut-être que justement ça manquait un peu d'équilibre entre nos qualités offensives et nos qualités défensives.
C'est clair que presque 50 points, on va dire sur trois quarts des matchs, ça va quoi.
Il y a eu du spectacle cette année. Vous avez offert beaucoup de plaisir aux gens, je crois.
L'intérêt du jeu, c'est ça aussi, de rugby, c'est de faire du jeu. C'est vrai que si on fait touche mêlée, pénalité, c'est moins.
Ah, c'est un peu fermé, quoi.
Dans les plus, vous retenez l'augmentation régulière de l'affluence à Arnas, et puis surtout cette ambiance-là du jour de la montée, où ça a été un truc de fou, je crois, non ? Ça restera, ça, non ?
C'est lié au résultat, hein, après. Le fait qu'on soit en attente de voir son équipe qui joue à montée, et puis de faire des phases finales où tout le monde attend ça depuis des années, parce que Arnas, je crois que c'était les premières. Non, il y avait celle de Fédéral 3, je crois qu'il y a eu quelques années en arrière, quand ils sont remontés en Fédéral 2. Il y a dû avoir un ou deux matchs de phase finale, mais là, pour le coup, une montée en Fédéral 1, c'était la première fois.
Le public calédois a toujours répondu dans les moments forts. L'année dernière, pour le match du maintien, l'année dernière, il y avait du monde aussi. Hein.
Mais c'est une terre de rugby.
Faut pas oublier.
Et des fois, parfois, un peu en sommeil, mais c'est une terre de rugby.
Il y a un axe là, alors Belleville un peu moins maintenant, mais il y avait un axe Villefranche-Belleville-Mâcon, qui était assez impressionnant, avec très peu de kilomètres entre les clubs. Tout le monde en fédéral, ça le fait, quoi. Ça le fait, ça se partage, ça se partage bien. Alors, comment on peut résumer, vraiment la saison cette année ? Comment vous la résumez ?
En quelques mots ?
Ouais, en quelques mots. Ouais. Je sais que ça va être
abouti. Dangereuse, parce qu'après il y a la suite, hein. Il faut que l'année prochaine ça se passe bien, et donc ça c'est le plus stressant, voilà. Mais après bien sûr que elle est totalement aboutie, et puis les joueurs, il y a un groupe qui s'est formé là-dessus, c'est un groupe qui va perdurer dans le temps, donc oui forcément.
Oui, le groupe était assez jeune, je crois, enfin moyenne d'âge, non ?
Oui, mixte, je dirais. Jeune, un peu moins jeune. Bon, on avait un Johan Charlon qui était venu nous renforcer à l'intersaison, qui est pas tout jeune, qui d'ailleurs raccrochera les crampons à la fin de l'année. Bien dommage, mais voilà. Donc des jeunes et des moins jeunes.
C'est votre méthode de travail qui a peut-être aussi beaucoup compté cette année. Comment vous fonctionnez, votre duo?
Je vais juste te dire, ça serait un peu prétentieux de dire ça. Moi, je dirais pas que c'est la méthode de travail. Je dis que c'est un groupe. Alors, dans le groupe, il y a le staff, il y a les joueurs, mais les joueurs sont pour beaucoup. Moi, personnellement, je pense que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Mais après ça, on peut en discuter. Mais
l'entraîneur fait le groupe.
L'entraîneur, après, oui, non, mais il accompagne tout ça. Et puis, bon, on a quand même, on ose croire qu'on a un petit peu notre. Un peu là-dedans,
Comment vous fonctionnez, qui fait quoi?
Bertrand, voilà. Il est très modeste, tu sais. C'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, mais dans le fonctionnement, si vous voulez, du club, c'est celui qui bosse le plus. Faut le dire quand même, faut lui redonner quand même les honneurs à tout ça. C'est un garçon qui est très impliqué.
Sur quelle partie du travail, moi, je pense, Bertrand, que vous êtes sur quoi, vous, essentiellement?
Alors, vas-y, si tu veux.
Non, moi derrière et puis lui devant.
Ouais. Voilà.
Oui, mais ça, dit comme ça fait
un peu. Ouais, c'est un
peu. Non, mais après, on se connaît depuis très très longtemps. Après, on bosse, oui, on s'implique, voilà, on est impliqué, on est passionné, surtout, ça c'est le plus important. Et encore une fois, tout ça, c'est possible, il y a que si les joueurs adhèrent.
On a des joueurs quand tu, je pense, hein, je parle pour nous deux, quand tu fais un projet de jeu, il faut que le projet soit porté par les leaders et tous les joueurs. Et quand on a un joueur ou deux joueurs ou trois joueurs leaders qui sont très bons et en plus qui t'amènent une certaine assise dans ton projet de jeu, qui l'améliore en plus, je pense que c'est ça. Hein, c'est, ils l'ont fait grandir, ils l'ont fait évoluer. Et comme dit Bertrand, c'est les joueurs qui aussi sont les acteurs. Tu peux avoir tous les outils que tu veux si t'as pas un petit peu de talent, si t'as pas le temps de mettre en place tous les éléments avec tes joueurs. Il se passe pas grand chose en fait.
Moi je le trouve bien modeste parce que je me rappelle juste le parcours de l'année dernière.
Oui, il faut que le club il ait une évolution, c'est logique.
Voilà,
les années qui ont été un peu compliquées, on les oublie.
N'empêche qu'à vous deux, vous avez réussi à stabiliser quand même l'équipe, dans la mesure où il y a eu très peu de départs. Par rapport à une saison compliquée.
C'est le travail de tout le monde, c'est pas que.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si votre discours d'investir n'était pas cohérent, si votre méthode ne convenait pas, si tout ça, les gens seraient partis.
Vous êtes visiblement dans la confiance, non seulement mutuelle entre vous, parce qu'on voit bien que vous n'avez pas beaucoup à parler entre vous pour faire avancer les choses, et donc vous faites confiance aussi à vos joueurs. C'est un peu ça, en résumé, votre manière de travailler.
Oui, ce serait difficile de faire autrement.
Oui, responsabilise les joueurs. On aime bien dire ça.
Les joueurs, ils sont responsables de nature en plus.
Oui, non, mais il y a des coachs très autoritaires.
Enfin, oui,
il y a différentes philosophies.
Bien sûr,
vous voyez ce que je veux dire. C'est ma question.
C'est pas la nôtre.
Ouais.
Je pense que si un entraîneur aujourd'hui est directif autoritaire, enfin, toutes ces choses-là qui a besoin de ça, d'imprimer son caractère sur un groupe, je pense que c'est pas du charisme, mais au niveau de la notoriété, je dirais, d'entraîneur, ça aide aussi de mettre en avant sa marque, sa patte, en disant moi je suis comme ça, c'est parce que j'étais joueur de haut niveau comme ça. Alors, je ne vais pas parler pour Bertrand, mais pour moi en tout cas, j'étais un joueur moyen, j'ai joué à un bon niveau, mais après, voilà, on n'a pas de nom sur les tablettes. Voilà. Après, je pense que Bertrand, c'est. On ne dira pas le contraire, mais quand tu as un nom, c'est plus facile au départ. Après, sur la durée, c'est vrai que quand tu bosses, c'est un peu mieux, quoi, sur la durée.
Ouais, puis ça fait un petit moment de bosser ensemble.
Le nom, c'est
avec les juniors et puis.
Même tout les cas. Ça, les minimes.
Les minimes, même.
C'était le premier tournoi qu'on a fait ensemble, c'était à quoi ? À Rive.
À Rive.
Ouais.
Ah
ouais. Il y avait
donc
eu un orage.
Ça fonctionne, hein. Minime, cadet, junior, senior.
Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne dans un petit instant, on fait une petite pause. Le temps de souffler 2 minutes. Et puis, parce qu'il fait très chaud en plus dans le studio. Et on revient dans quelques instants. Et on sera toujours avec Xavier Monméa, avec Bertrand Auger, avec toute l'équipe. On fait une petite pause musicale. On revient juste après Justin Timberlake. Là, Caps, on l'a pas entendu de toute la soirée. Mais là.
Oui, mais ça, on s'en fout.
Voilà. C'est vrai. On dit Justin Timberlake qui parle.
Ah oui, on parle de rugby, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Allez, à tout de suite sur Galate 100.9. Time, but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. So I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more. And you all can meet me in the middle of a floor. Set the air. On est de retour sur Calade 100.9 avec toute l'équipe des Fesports et puis également le staff du CSV, Xavier Bonméa et Bertrand Nogier.
Effet Sport.
Et on continue d'évoquer la saison du CSV et puis le club également, hein, l'encadrement, la vision d'avenir. Je relaisse la parole à coach qui, d'une main de maître, mène cette interview tel, je ne sais pas quel journaliste.
Donc après avoir parlé de la belle saison, on va parler du futur un peu, parce que ça va être tout aussi intéressant.
Ce qu'il faut dire, donc, c'est que vous accédez au championnat fédéral 1 de rugby, qui est l'élite amateur, puisqu'au-dessus, il n'y a plus que deux niveaux professionnels, avec le statut, etc. Donc, c'est quand même, a priori, une énorme marche, hein, là, qui est franchie. Donc, c'est vrai qu'on a envie, nous, de savoir. Et maintenant, pour le CS Villefranche Rugby, c'est quoi la suite ?
Ben, la suite... La suite, c'est de maintenir le club à ce niveau-là, ça c'est sûr, voilà, de faire en sorte que le club se maintienne, se pérennise, et puis continue à évoluer. Alors après, on sait que la saison prochaine sera difficile. Sera difficile parce qu'on est promu, parce que tout ça se fait un peu peut-être dans la précipitation. La montée était... C'est un objectif à long terme, sur 3 ans. Là, elle s'est fait tout de suite, il fallait la saisir. Hein. Ce n'est pas une chance qui se représente tout le temps. Donc, quand on a les moyens d'y aller, il faut y aller. Après, ben voilà, après tout le monde s'active, hein. Dirigeants, entraîneurs, même joueurs sont impatients de reprendre. Certains nous demandent quand est-ce que ça reprend, comment on se prépare avant. Voilà, donc tout le monde est excité, mais après, il y a le championnat. C'est un championnat long, difficile, avec des équipes qui sont aguerries à ce niveau-là, notamment des équipes comme Bourg qui descend, l'USB, comme Bourgoin.
Bourgoin-Jailleux, hein, quand même. Hein. Vous rendez compte quand ouais. Vous allez
non, mais
jouer.
Il y a du nom, hein, quand même. Hein.
Alors après, je ne sais pas si on les aura dans la poule, tous.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs poules, oui.
Oui, parce qu'un peu la région parisienne, voilà. Ça serait bien d'avoir un peu plus bas, quoi.
Ben, oui, mais en région parisienne, il y a Massy.
Oui, bien sûr, mais bon...
Alors, voilà. Si on prend par ordre, déjà sur l'effectif, vous avez déjà commencé, j'imagine, à travailler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de l'effectif, si vous pouvez déjà nous dire quelque chose?
L'effectif va évoluer. Enfin, déjà, il y a un groupe qui mérite quand même de vivre cette aventure-là, c'est le groupe qui est existant. Après, c'est ce que... tous les staffs qui montent disent, mais il ne faut pas non plus se leurrer, c'est un groupe qui a besoin de se renforcer par rapport au niveau dans lequel on va évoluer, mais aussi quantitativement. Donc on y travaille. Pour l'instant, rien n'est ouvert, donc rien n'est signé, donc on se gardera bien d'annoncer des noms, mais en tout cas, on travaille de façon...
Sur quel secteur vous voulez bonifier et améliorer l'équipe?
Ah oui, il faut se compléter un peu de partout. Voilà, il faut se renforcer. Alors après, par contre, il faut se renforcer surtout dans un 5-2 devant.
J'allais dire les centimètres et les kilos.
La première ligne surtout, sans faire injure à notre première ligne de cette année, à notre groupe, hein, mais ça pousse en mêlée. Comme comme les grands, c'est-à-dire comme ceux qu'on voit à la télé. Donc nous, la poussée était quand même contrôlée en Fédéral 2. Donc ça change quand même pas mal de choses, ouais, sur ce secteur-là. Donc oui, un 5-2 devant où il faut se renforcer, mais après il faut
et
se
on
renforcer.
Trouve des joueurs disponibles, hein, qui ont le niveau, parce que ça forcément ça se resserre. Plus on monte, plus c'est difficile, plus
attire,
c'est cher.
La calade attire.
J'imagine.
Oui, il n'y a pas que la calade qui attire.
C'est clair, mais j'avais demandé au président, je lui avais demandé si financièrement déjà c'était possible et il nous avait assuré que oui.
En fait,
c'est le nerf de la guerre,
c'est la région aujourd'hui un petit peu phare aujourd'hui au niveau de Fédéral 1. Si tu veux, t'as quand même beaucoup de clubs, énormément de clubs dans la ligue comme elle est aujourd'hui, comme elle est faite, que ce soit la
Savoie. C'est un avantage alors pour vous, ça vous permet d'avoir
plus
de choix.
Alors non, oui, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de clubs qui veulent les mêmes joueurs. Donc
oui, c'est ça.
C'est un peu comme la bourse. Plus il y a de la demande, plus c'est cher.
Ouais, c'est clair.
Donc aujourd'hui, un bon joueur de Fédéral 1 avec beaucoup de matchs au compteur, s'il est joué à Chambéry et qu'il est à un poste que tout le monde veut, c'est sûr qu'il va se monnayer. Donc voilà, après c'est une question, après il faut faire venir des joueurs, des jeunes espoirs, des gens qui veulent se montrer, des joueurs qui veulent aussi prouver ou qui n'étaient pas forcément peut-être titulaires en Pro D2 ou en Fédéral 1 dans d'autres clubs et qui sont un peu revanchards, qui veulent.
Ouais, parce qu'on parle de recrutement en Pro D2, quoi. Enfin...
Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Alors, la première ligne.
On en avait déjà trois.
On en avait trois.
Hein. Oui, bien sûr, ouais. Enfin, des anciens.
Des anciens de qualité.
Ouais, c'est clair.
Alors la première ligne, est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui sont vraiment des priorités pour vous?
Sur le 5-2 devant, oui, je répète, ouais. Ça c'est une priorité, de par le fait que ça pousse en mêlée. Ouais. Après, tout le reste, bien sûr qu'il nous faut... On a fait toute la saison avec deux centres. Alors là encore une fois, sans faire injure à tous les autres, mais on a fait toute la saison avec deux centres. On touche du bois et on a pu faire la saison, mais on sait très bien que ça se fait. Ça peut pas se faire chaque année,
non,
et
ça,
notamment
ça
au niveau
pas.
Où on va. Donc il faut et puis les joueurs concernés en sont bien conscients. Donc
c'est pas des surhommes non plus. Hein.
Voilà, donc il faut une rotation, il faut des joueurs de qualité, il faut de la concurrence aussi parce que la concurrence fait avancer. Voilà, donc un peu chaque secteur à des postes clés sont à renforcer, et en deuxième ligne aussi notamment.
Avez-vous à l'inverse des joueurs qui, alors on a entendu tout à l'heure que vous avez une retraite, y a-t-il déjà des joueurs qui vous ont signifié qu'ils partaient, non. Ou qui n'ont pas envie de continuer?
Généralement quand ça monte comme ça,
non, mais
après
question,
ça peut arriver, hein, mais là pour l'instant on n'a personne. On a une bonne surprise, c'est Fabio Da Silva qui parlait d'arrêter avant cette saison-là et qui finalement va se relancer dans l'aventure pour...
Il en reprend une petite louche.
Ouais, il était venu pour ça quand même.
Il était venu pour... il était venu pour permettre au club d'accéder à l'étage supérieur, ce qui est fait.
Oui, ça c'était son engagement, voilà. En effet.
Il aurait pu arrêter.
Tout à fait.
Il a envie de faire en sorte que le club se maintienne à cet étage-là. Donc voilà, on est très, très contents, très heureux. Et puis et je vous dis c'est important, il faut un leader. Et lui, c'est un leader où les gros, les avants le suivront.
Donc c'est un homme de vestiaire.
Oui, c'est essentiel. C'est sur un groupe de. Alors vous avez quoi? Il y a une trentaine de joueurs, hein, c'est ça, hein, grosso modo. Il faut une hiérarchie et puis il faut effectivement, il faut un leader charismatique pour relayer ce que vous dites depuis la.
Pour touche. Traduire en fait.
Ouais, pour
très barré par des fois.
J'aime bien le mot.
Ou faire des fois ce qu'il a envie aussi.
Alors ça c'est sur le plan sportif. En revanche, est-ce que vous n'avez pas un peu coupé l'herbe sous le pied à vos dirigeants, justement peut-être en accédant trop tôt? C'est pas un peu un danger ça d'arriver peut-être trop vite?
Ils étaient plutôt satisfaits. Je suis pas persuadé.
L'appétit vient en mangeant.
Ouais, voilà, non.
Ils ont un bon appétit, ils ont pas refusé.
Non, mais je veux dire, enfin, c'était pas non plus une surprise vu la saison, on va dire. Enfin, on pouvait s'attendre quand même.
Après, si tu veux, cette année,
on va peut-être jouer la montée quand même, quoi.
Cette année,
quand même.
Non, mais il faut se mettre à la place d'un dirigeant à qui vous dites, président, il faut trouver 300 000 euros.
Par rapport à ça, je peux vous dire que notre président nous a dit, je dors plus. Et là-dessus, je rebondis là-dessus, c'est une réalité, c'est qu'il faut trouver des sous.
Il faut trouver 300 000.
Il faut commencer et puis il y a plein de choses qui changent, ça doit turbiner les ménages.
Oui, oui, non. Et une organisation administrative aussi à trouver dans le club. Après, sportivement, on avait des opportunités. C'est ça qui était. Enfin, cette année, il y avait une opportunité ou deux de pouvoir se faufiler. Jusqu'à
d'y
la
aller,
montée.
Quoi. D'y aller, ouais.
Bon, effectivement.
On aurait pu se faufiler jusqu'à la finale, mais bon, la porte s'est un petit peu fermée.
Au moins jusqu'à la demi, oui.
Au moins jusqu'à la demi.
Oui, finalement, vous faites juste le minimum pour accéder, en fait, parce qu'en arrivant en quart de finale, vous accédez, mais votre saison, elle aurait pu aller. Prenez-le comme vous le voulez. Prenez-le dans le sens où vous le voulez. Mais... Vous savez comment on est, nous, les journalistes, hein, on aime bien.
Mais alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a une cassure quand même, parce que ça demande tellement d'efforts. Tellement d'investissement de la part des joueurs sur un groupe qui était pas formaté au départ pour monter, qui avait quantitativement qui était pas là-dessus, et qui après en voyant tout ça arriver, il y a eu tellement une débauche d'énergie tant physique que psychologique que forcément, en plus il y a eu une semaine de repos. Ouais. Donc, cassure un peu du
rythme.
Et donc, c'était forcé qu'il y ait de la décompression un peu. Et pourtant, on passe pas.
Ça veut pas dire que vous êtes peut-être allé jusqu'au bout du curseur, vous ne pouviez pas le pousser plus loin, c'est ça que vous voulez dire? Ou au contraire, que vous auriez peut-être pu faire encore mieux si vous étiez donné.
Franchement, ça ne joue pas grand-chose.
C'est ça la question.
À 2 minutes.
Oui, mais je sais, mais des fois, le sport, c'est
pour en avoir discuté avec les joueurs, certains nous ont dit on était cuits. Bien sûr. Il fallait jouer ce match, mais on était cuit.
Parce
et
au tout début. Ils encaissaient une pénalité au-delà de la sirène. C'est quand même un signe, ça. Vous teniez votre victoire et votre qualification.
C'est surtout, fou, on prend un essai en première mi-temps qui est stupide, sur une touche rapidement jouée, on n'est pas vigilant. Et après, on court tout le temps après le score, malheureusement. Voilà, après, on fait encore beaucoup de fautes
à la fin du match, on fait pas mal de choses.
Donc c'est plutôt le fait d'être allé au bout, alors c'est surtout ça, en fait, qu'il va falloir retenir.
Ça, c'est pas la fin de match non plus, ça, c'est sûr.
C'est dommage parce que je pense qu'on mérite. Au vu du match, on méritait autant que Drancy d'aller en demi.
Je pense.
Drancy qui est passé à la trappe le tour d'après.
C'est ça, contre Rumi.
C'est ça.
Après, de toute façon,
ils ont eu du lourd.
Avec Rumi.
Rumi, c'est du lourd.
qui se préparait, qui eux, justement, depuis des années, visaient cette montée. Qui était, nous, ils étaient l'an dernier dans la poule. On avait gagné péniblement chez nous le premier match. On perd chez eux.
35.
Compliqué. Donc, oui, non, c'est une équipe solide qui. Voilà.
Alors, pour conclure sur cette deuxième partie, parce que Guillaume a l'œil sur la pendule, on l'a vu, les objectifs un petit peu de recadrer sportivement pour la montée. On a vu que structurellement aussi, vous avez confiance en vos dirigeants pour avoir les moyens d'évoluer. Mais bon, quel sera, clairement, est-ce que vous avez déjà défini un objectif précis qui se tient uniquement au maintien, un maintien tranquille, un maintien plus, enfin, je sais pas, est-ce que l'année de la montée, on peut avoir différents projets.
Oui. Mais encore une fois, je pense qu'on fonctionnera après la même chose que les deux années qu'on vient de vivre, c'est-à-dire que les joueurs vont fixer leur objectif à eux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Après, nous, le club, c'est de se maintenir. Donc, ça là-dessus. Mais après, peut-être que le groupe de joueurs va être un peu plus ambitieux en disant viser telle ou telle place ou autre chose. Mais je pense que c'est bien aussi que les joueurs, à un moment donné, se définissent eux ce qu'ils veulent faire aussi.
Ça leur permet d'être un peu plus concernés quand même sur l'objectif.
Oui, effectivement. Ouais.
Et comment vous le sentez sur le... Parce que là, vous avez la liste, grosso modo. Alors, OK, il y a deux poules, mais.
Quatre poules.
Mais sur l'ensemble des résidents, je dirais, de cet échelon, vous vous sentez quoi? Le petit pousset, le moyen
c'est
plus,
ça. Le gros, pousset, sans complexe.
Ouais,
c'est ce qu'on va essayer d'être. C'est-à-dire de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, ça c'est sûr, et puis d'être sans complexe.
Vous avez cependant des infrastructures à Arnas qui sont formidables. Ça, c'est un énorme avantage pour aller chercher le haut niveau. Parce que, on ne va pas se leurrer, vos joueurs sont quasi des professionnels. En Fédéral 1, ils passent énormément de temps à se préparer, à s'entraîner.
Ils sont plus réactifs.
Très exigeants, quand même.
C'est justement là où est le danger, c'est qu'il y a différentes équipes. Il y a les équipes qui nous ressemblent. Auxquelles on va ressembler, c'est-à-dire où il y a beaucoup de contrats plus réactifs, les joueurs associent travail.
Voilà, ils ont une profession à côté et c'est une deuxième activité. Hein.
Et puis il y a des équipes où les joueurs sont totalement.
C'est des pros, il faut le dire.
Pros, voilà,
il y en a. En fédéral, il y en a.
On commence à trouver des Fidjiens sélectionnés.
C'est ça.
Ah, oui.
Des Géorgiens,
des joueurs étrangers, en effet.
Ouais. Ah, oui, effectivement. Dijon, Bourgoin, Bourg.
On va se régaler, on va se faire plaisir.
On va se régaler et puis on suivra ça avec un œil tout à fait attentif pour la saison prochaine. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous. Enfin, vous partez pas, vous restez là.
Ils vont rester jusqu'à la fin. On va continuer à parler de sport.
Le 8 septembre.
Voilà,
à la maison ou à l'extérieur.
Mais oui, le 8 septembre.
Et l'entraînement, la date?
De reprise, c'est un scoop.
Ah oui,
9 juillet.
Ah ouais, c'est les vacances vont être courtes.
Ah oui.
Faut pas grossir pendant les vacances.
Ah, dis-moi,
c'est vrai.
Ils l'ont bien mérité en tout cas.
Oui, voilà, c'est ça. Ils vont, dans pas longtemps, ils vont reprendre. Nous, on reprend juste après la musique et puis on change totalement de sport. Là, on parlera de vélo et notamment du VCVB, le Vélo Club Villefranche Beaujolais. Alors, restez avec nous, messieurs, si vous voulez parler un peu de vélo, je sais que vous en faites un peu le dimanche, et c'est l'occasion, on peut en débattre. Ce sera juste après la musique. Voici Lost Frequencies sur Calat 100.9. But if you don't look, you don't have to know it. And I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see that I climb mountains just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that
anybody else could love you like I love you. Like I love you. Been hurt before, but a little love is enough to save ya. Yeah, we can take our time for sure, 'cause something real is worth the waiting. Can't you see that I've come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see I'd swim the ocean just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you. Love you. Surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark. I know you're wanting me, but you won't surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, in the dark. Do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like love, like I love you. Nobody else could love you, love you, you. Nobody else could love you, love you, you. Nobody else could love you, love you, you. Like I love you.
On est toujours sur Calade 100.9 dans Effet Sport avec Xavier Monméa, avec Bertrand Nogier et puis avec toute l'équipe. Dans un instant, on parle de vélo et du vélo club Villefranche-Beaujolais.
Effet Sport. Effet Sport. Effet Sport.
On en parle dans toutes les semaines, hein, puisque la saison a commencé. Il y avait des étapes de Coupe de France les semaines passées.
Ouais. Hein, ouais, la saison de cyclisme bat son plein avant le Tour. Il y aura quand même une grosse parenthèse pendant le Tour qui retient essentiellement l'actualité. Mais il y avait la 28e édition du Tour du Beaujolais ce week-end, les amis. C'est une course qui était vraiment passionnante cette année parce qu'il y avait 12 équipes de DN1, qui est l'élite amateur. Il y avait de nombreuses équipes de DN2. Donc vraiment un plateau très relevé, 3 équipes étrangères venues de Belgique notamment, et ça a été une course qui a été avec une nouvelle équipe d'organisation d'ailleurs, qui a été bâtie pour qu'il y ait du suspense et du spectacle, avec 3 étapes, donc une étape principale samedi, une courte étape de 50 km dimanche matin et une deuxième demi-étape de 112 km dimanche après-midi, dont l'objectif était de faire de la montée au Mont Brouilly le juge de paix, puisqu'il y avait 2 ascensions à faire du Mont Brouilly pour les coureurs, donc avec des pentes extrêmement sévères en toute fin de tour et en toute fin de parcours.
Pour avoir fait les vendanges là-bas, ouais.
Voilà. Alors, si t'es déjà arrivé à monter jusqu'en haut, déjà, je te félicite, bravo. Les conditions samedi pour la grande étape de 150 km étaient dantesques, puisque samedi, il y a eu 7 orages.
Ah oui, c'est vrai.
Qui a douché les coureurs tout au long de la course. Ils sont arrivés, il y avait énormément de chute. Les visages étaient extrêmement marqués, croyez-le bien, parce que quand vous prenez de la grêle à Sainte-Paul ou à la montée aux Écharmeaux, je peux vous dire que ça pique. Donc ça a été une course très animée où ce sont en réalité les descentes qui ont fait le spectacle, parce que il fallait oser rouler à 60 ou 80 km/h avec des trompes d'eau. C'était vraiment un truc de malade. Donc la course a été complètement débridée samedi, mais finalement l'arrivée s'est faite avec une éclaircie aux environs de Saint-Georges
Georges d'Ornins. Et tous les coups ont foiré, donc il ne restait plus que, voilà, qu'un regroupement général. Et puis dans les derniers kilomètres, sur le petit circuit dans Saint-Georges, il y a un petit groupe qui s'est détaché, qui n'a fait aucun écart. Donc c'est un franco-anglais, Simon Carr, ou Simon Carr, appelez-le comme vous voulez, du club d'Aix-en-Provence, qui l'a emporté pour quelques petites secondes. Et il y avait 50 coureurs à 7 secondes au général, dont de nombreux Caladois qui ont été parmi les grands animateurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Alors évidemment, vous connaissez les noms, Sten Van Gucht, Eddy Finet et Alexandre Delettre, comme d'habitude. Ces trois-là, sur les 6 Caladois engagés, étaient dans la course. Dimanche matin, donc petite étape nerveuse dans le Beaujolais autour de Fleury-sur-Oise, qui est le circuit de Fleury en fait, hein, qui a été fait 4 ou 5 fois depuis Audenas. Étape courte et très nerveuse, mais qui n'a encore pas permis, là encore, de faire de gros écarts. Eddy Finet toujours dans les places d'honneur, cinquième sur la ligne. Donc on arrivait dimanche en fait avec une étape où il n'y avait absolument rien de fait. Simon Carr avec le maillot jaune, mais avec seulement 3 secondes d'avance sur son premier poursuivant, Maxime Jarnet de Saint-Étienne, et donc les Caladois qui étaient là, qui étaient vraiment pas loin, qui ont manqué de réussite, on peut le dire aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure de la réussite. Et donc dimanche, eh bien, ça a été une course passionnante, sous le soleil. Et ça s'est décidé bien évidemment autour du Mont Brouilly, avec les deux ascensions par les deux versants. Et en fait, c'est entre les deux versants qu'un petit groupe a réussi à s'extirper du peloton. Ils étaient 12. Et on avait la chance d'avoir deux Caladois. On avait Eddy Finet qui jouait le général et Alexandre Delettre qui voulait, pourquoi pas, la claquer. Et ça s'est joué en fait dans les derniers hectomètres, c'est au pont des Sansons tout en bas quand on redescend. Là, ils étaient 12. Il y a eu des tentatives diverses et variées, mais c'était très regroupé. Et puis Maxime Jarnet, à 1,5 km de l'arrivée, le Stéphanois avait réussi à faire un tout petit écart, et c'est là que bah, le vainqueur final, vous avez compris, il s'appelle Louis Louvet, c'est un jeune coureur espoir, qui aspire, j'ai discuté avec lui après la course, il aspire à devenir professionnel assez rapidement. Et bien Louis Louvet a tout jeté, hein, si l'on peut dire, ses forces dans la bataille, et est venu coiffer sur le poteau le reste du groupe, et pour une toute petite poignée de secondes de rien du tout, bah, il est le vainqueur final de l'étape. Moi je te propose justement qu'on l'écoute, oui. J'ai réussi à discuter avec lui avant même, à l'instant même où les juges cherchaient à savoir qui était véritablement le vainqueur final, parce que ça s'est joué au centième de seconde, si l'on peut dire, puisqu'ils étaient à eux et ça s'est joué à rien du tout. Et pendant qu'on discutait, qu'on échangeait avec le vainqueur Louis Louvet, eh bien il s'est confié à nous, à notre micro.
Il était sur la ligne d'arrivée avant le contrôle antidopage.
Voilà, tout à fait.
Allez, ben on l'écoute.
Ouais, bien sûr, je suis super content.
C'est pas en ligne, moi je l'ai ici.
Je suis super content. C'est ma première victoire de la saison. Du coup, ça en fait deux d'un coup. C'est une belle épreuve. En plus, je suis quand même pas très loin de chez moi. J'habite à Chalon-sur-Saône. C'est une course de la région. Donc, c'est important pour le club. Ouais, c'est vrai que c'était une belle arrivée en haut du Mont Brouilly là. Donc ouais, c'est des pentes assez raides, donc fallait mieux être en forme aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, pour ça j'avais mes coéquipiers qui m'ont bien aidé à me placer au pied du premier passage. Et après on est sorti à 5. Et là on est revenu sur le groupe des têtes. Voilà, c'était un petit peu tactique parce qu'il fallait quand même. Fallait qu'on essaie d'arriver avant le peloton et fallait quand même essayer d'en faire le moins possible. Donc voilà, un petit peu tactique, mais on arrive avec une bonne minute au pied, donc c'est, bah, pour, à ce niveau-là c'était réussi. Et après au pied, ça attaque une première fois avec Bacon et Jarnet dans la roue. Moi, sincèrement, je pouvais pas y aller. Et voilà, j'ai laissé les autres un peu faire. Et après j'ai contré à 1,5 km de l'arrivée. Et là, j'ai pas coupé mon effort jusqu'en haut. Je pensais pas gagner parce que Jarnet, il était quelques longueurs devant moi et je reprenais rien. Et voilà, je pense qu'il a un peu craqué à 250 mètres. Et quand je suis passé à côté de lui à 200 mètres, j'ai mis tout ce que j'avais. Et puis, je suis gagné. Donc j'étais vraiment content.
N'étiez pourtant pas favori.
Je sais pas qui était les favoris, mais en ce moment je suis quand même en forme, je venais là pour gagner, c'est réussi.
À 250 mètres, oui. Hein, il a gagné le tour pour 250 mètres. Hein. C'est un sport, les joueurs de rugby, vous avez un sport de balle, il y a du jeu, on en a parlé, vous aimez le jeu. Vous êtes sans doute, comme nous, admiratif d'efforts comme ça, ce que font les cyclistes.
Ah bah, Bertrand. Oui, effectivement. C'est un sport où, enfin, c'est d'autres contraintes, un effort long, en solitaire, souvent, un sport individuel où, et seul avec avec son vélo. C'est, ce sont des sports très exigeants, oui. Où nous, on peut trouver un peu plus de plaisir quand même dans le collectif, dans pas mal de choses. Après, je pense que les cyclistes en trouvent aussi du plaisir. Donc,
ah ben, il était en tout cas très heureux, le jeune donc Louis Louvet, qui s'impose pour 7 secondes devant Maxime Jarnet, donc il a doublé à 10 mètres, quoi. Bellico, 11 secondes. Il court pour le CR4C Roanne, Louis Louvet, le jeune chalonnais. Et Eddy Finet a craqué pour quelques secondes. Il lui a manqué lui aussi 200 mètres, puisqu'il finit à 19 secondes. Et donc, au général, ça nous donne quoi? Eh bien, effectivement, les commissaires ont dû compter pendant à peu près 1h30 pour arriver à être sûrs de leur classement final. Et on a attendu. Et
donc,
voilà. Et Louis Louvet, ce jeune espoir, notez bien son nom. Hein, c'est pas Louis Jouvet, mais Louvet, ça vous en souviendrez. Il s'impose pour 7 petites secondes au général devant Maxime Jarnet, 15 sur Romain Bacon, et Eddy Finet, notre Caladois, notre meilleur Caladois, c'est raté, il finit à 16 secondes, bien qu'il soit quand même parmi les hommes en forme de la D1. J'ai regardé son classement là, il est 9e hein, actuellement au classement par points de la Coupe de France en D1, donc notez bien ce nom-là, lui aussi c'est un jeune, hein. Tout cela, tous ceux dont je vous ai parlé, ils ont tous moins de 23 ans, donc ça c'est rare hein, dans le cyclisme, il faut plutôt être mûr hein, pour réussir, et là il y a une jeune génération qui est incroyable, le jeune Rudy Fievé aussi. Et puis chez les plus chevronnés, alors on notera quand même, c'est pas mal, que Alexandre Delettre, l'autre coureur du VCVB, termine 8e du général à 43 secondes, et Sten Van Gucht, le leader des Loups, donc le coureur belge, est à 1,54 au classement final. Un beau week-end pour les Loups, ils ont eu les maillots distinctifs, le maillot du combiné pour Eddy Finet, donc le meilleur à la fois grimpeur et sprinter. Il le garde, son maillot ocre à la fin, maillot du meilleur jeune aussi qu'il a eu jusqu'à la deuxième étape. Enfin, il y a eu beaucoup de motifs de satisfaction, mais c'est vrai que les supporters nombreux hein, du VCVB en haut du Mont-Brouis sont un peu frustrés parce qu'il n'y a pas de podium et il n'y a pas de victoire d'étape au final. Donc voilà, c'est dommage. Mais c'était en tout cas un beau week-end pour le Vélo Club Villefranche.
Très bien,
voilà. Ça marche. Vous voulez qu'on enchaîne et qu'on parle d'un autre sport?
Peut-être, vas-y.
Hein, si vous n'avez pas de questions, non, je sais pas.
On t'écoute.
Bon, je vous parle de sport mécanique cette fois, donc ça n'a rien à voir, hormis que là il y a des moteurs.
Ouais. Sinon, mais il y a toujours des roues.
Ça se ressent. Voilà, c'est vrai. Il y avait la traditionnelle course de côte de Marchand ce week-end, c'était la 58e. C'est quand même un rendez-vous très prisé pour les spécialistes. C'est le championnat de France de la montagne des voitures de sport. Alors le principe des courses de côte, c'est une route fermée hein, avec un chronomètre et chacun son tour, chaque pilote essaie de monter au sommet le plus vite possible. Voilà, en essayant d'arriver en entier, bien évidemment, oui, d'arriver jusqu'au bout. Non, mais il y a souvent des accidents. Hein, je vous cache pas. Ça monte à plus de 150 km/h là-haut à Marchand en moyenne. Hein. En départ arrêté, ils sont au volant de bolides incroyables avec des modèles que dont vous avez sans doute entendu parler. Notamment, j'essaie de me souvenir des marques, mais ça va me revenir. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'hyper favori, c'est un Mâconnais, hein, donc il était un peu à domicile. Geoffrey Schatz, leader du classement au championnat de France des voitures de sport, hein, donc actuellement, eh bien Geoffrey Schatz cette fois-ci ne s'est pas loupé et c'est lui qui l'a emporté et il a, tenez-vous bien, battu le record de la montée 3900 mètres en 1 minute 29 secondes et quelque chose comme 213 millièmes. Voilà, 4 km en moins d'une minute 30 et c'est très vallonné, hein, c'est de la côte. Hein.
Virages en épingle.
Que des épingles, des virages très durs. Donc Geoffrey Schatz qui a écrasé la concurrence parce qu'il a mis son poursuivant, je reprends mes notes, c'est Cyril Frantz qui est deuxième au classement de la montagne, il l'a mis à plus de 3 secondes par montée. Donc là, il n'y a pas eu photo cette année. On a ensuite parmi les spécialistes Kevin Duro, ça c'est pas étonnant, troisième, il faisait partie des hyper favoris. Ce que je voudrais que vous notiez également, c'est que le régional de l'étape, puisque lui il habite à Marchand, donc il est à domicile, c'est l'inamovible Marcel Sapin, représentant de l'ASA Beaujolais, club organisateur, qui conduit un prototype Tatus. Eh bien, il fait quand même cinquième, Marcel Sapin. Il n'a pas les mêmes moyens que les trois leaders. Hein. Il ne court pas sur le même type de bolide. Et comme il connaît parfaitement bien les lieux, eh bien Marcel Sapin, il fait son plus beau classement donc à la course de côte de Marchand avec cette cinquième place. Comme quoi, l'abnégation, ça paye toujours. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, messieurs du rugby. Je pense que c'est tout à fait dans vos valeurs. Voilà, ce sont des normas, les véhicules, les monoplaces les plus rapides qu'on a eu à Marchand. Ce sont des véhicules où il n'y a pas de toit. Hein. Vous êtes, c'est une monoplace, vous êtes très serré dedans, un petit peu une petite formule, hein, quoi, hein, quelque part. Hein. Avec des moteurs avec 4 litres et je ne sais combien de milliers de chevaux. Trois montées chronométrées et on garde le cumul des deux meilleurs. Voilà un petit peu le principe. Alors ça a été comme le cyclisme. Samedi, les essais s'abordaient, puisque à cause de la météo, il était impossible, avec des pneus slick, vous voyez le truc, de monter sous la grêle à Marchand. Donc il n'y a eu qu'une seule épreuve chronométrée d'essai en début de journée. Donc c'est vrai que ce n'était pas évident. Mais les favoris ont répondu présents. Il y avait, comme chaque année, une foule énorme là-bas pour voir ce grand événement de sport automobile. C'est hyper impressionnant, hein, quand vous les voyez passer dans une épingle à plus de 150 à l'heure. C'est quelque chose. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de spectacles à Marchand. Voilà pour l'actualité sportive. J'ai encore une minute ou pas?
Alors si tu veux, autrement on peut faire ça dans le multisport juste après.
Allez, multisport après, parfait. Ça marche.
On envoie juste une petite musique, comme ça on souffle de nouveau un petit peu. Et puis on revient, on termine l'émission ensemble avec le multisport. Puis il y aura l'agenda aussi, l'agenda de Caps. A tout de suite sur Calade 100.9, merci d'être avec nous. C'est toute votre jeunesse, hein, les amis. Hein. Non pas que vous êtes vieux, hein, mais parce que voilà, c'est.
Je sais pas de qui il parle.
Voilà, non. Mais c'est bizarre, je regarde Caps en plus.
Ouais, en plus.
Aucune idée.
Oui, voilà, c'est ça. On poursuit sur Calade 100.9. On enchaîne avec la dernière partie de l'émission et notamment le multisport.
Effet sport.
Alors le multisport est un mot de transfert de foot également.
Ouais, on va parler un peu mercato, parce que c'est ce qui nous anime là-bas, du côté du FCVB. Ouais, il n'y a plus que ça, hein, concrètement. On va commencer par les arrivées, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas cette semaine. On a celle confirmée d'Alexis Sauvage. Il y avait 90% de chance pour qu'il soit de nouveau prêté du côté de la Calade, le gardien donc qui avait bien tenu les cages la saison dernière. Du FCVB, et bah c'est chose faite, ça y est, c'est officiel. officiel, 90% de chances qu'il revienne, c'est le cas. Donc il est de nouveau prêté par le Red Star, hein, du coup, qui descend en plus en national cette saison. On pensait qu'ils allaient peut-être le conserver, c'est pas le cas. Donc plutôt une bonne chose pour nous, hein, parce que ça a été, il a été plutôt rassurant la saison dernière. Par contre, côté départ, bah, malheureusement, ça continue. Après la vague de départ qu'il y a eu côté
Caladroit,
ouais, le pillage, là, concrètement, ça continue. Bon, le, entre guillemets, moins important, Pascal Michelizzi, qui était le troisième gardien dans la hiérarchie, s'en va pour aller chercher du temps de jeu, hein, on s'en doute, hein, oui, du côté bon. Du Loup en Cuiseau, en National 2.
Ah, maintenant, ça redescend.
Ouais, ouais, ça redescend. Bah, on, il va chercher du temps de jeu là en National 2. Là, il pourra prétendre peut-être à une place de titulaire. C'est officiel aussi. Antoine Philippon, lui, avait quitté, on le sait, Villefranche. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Mais on sait où il a signé. Il a signé du côté de MDA.
Tiens, bah, donc,
là où Chris a pris, l'ancien défenseur de l'OL, a pris ses fonctions.
MDA devrait bien marcher l'année prochaine en National 2. Hein.
Là, je
te... Ils ont la moitié d'une équipe de National 1. Donc...
je te ferai des petits points sur leur recrue. Mais c'est quand même correct.
Tant mieux, hein. Tant mieux pour la région.
Un peu plus embêtant, ce qu'il a été un peu plus en vue quand même la saison dernière, Jonathan Mambou qui signe du côté de Toulon, qui est fraîchement promu en National 1.
Ça fait encore mal, ça. Hein.
Donc, ouais, encore le départ d'un ailier après celui d'Ali Mmadi qui lui aussi a signé du côté de MDA. Et le dernier départ, même s'il était pressenti et déjà anticipé, bah, il n'est pas des moindres, hein, avec le départ d'Adrien Pagéry qui signe du côté de Cholet. Il a signé un contrat de 2 ans plus une année supplémentaire en cas de montée. Donc, à savoir qu'il a quand même reçu 2 propositions de clubs de Ligue 2 qu'il a repoussé parce que ça traînait un petit peu en longueur. Il voulait partir en vacances l'esprit libre, hein, c'est ce qu'il disait dans une interview sur le site de Cholet. Mais voilà, Cholet qui compte en tout cas monter une grosse équipe. Il a prolongé d'ailleurs son buteur Kevin Rocheteau, meilleur buteur de la saison dernière. Donc,
ça sera un poids lourd l'année prochaine.
Ouais, on sent qu'ils veulent monter en Ligue 2. Donc ça, c'est à peu près tout en tout cas. On va voir ce qui va arriver dans les semaines à venir. On va juste parler quand même du coup de tonnerre qu'il y a eu côté Ligue 2 cette semaine. Il y a eu le passage vers le gendarme financier, hein, la DNCG.
Ouais, ça rigole plus là.
Voilà, qui a émis un avis défavorable à Nancy et Sochaux, qui sont quand même des institutions du football français, qui sont donc rétrogradées en National 1. Ce qui laisserait une chance au Gazélec, Ajaccio et à Béziers finalement de rester en Ligue 2. Les deux clubs concernés, bien évidemment, ont fait un appel de la décision. Sochaux a quelques joueurs à forte valeur marchande. Hein. Certains jeunes joueurs qui sont en tout cas convoités en première division. Mais par contre, Nancy, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont un trou de 7 millions qu'il faudra combler. Vu la valeur marchande de leurs joueurs, ça me semble en tout cas très très compliqué. Je ne sais pas où le président Rousselot va aller chercher cet argent. Et à mon avis, on risque de voir Nancy en National 1.
Et puis à Sochaux, il n'y a plus de président parce que le Chinois a disparu. Quoi,
Puis ils ont rompu le contrat avec Alaves.
Ils sont partis.
C'est un joyeux bordel hein, du côté de Sochaux, faut le dire. Hein, t'façon. Donc, mais bon, ils ont quand même plus de valeur marchande en tout cas pour se maintenir, en tout cas financièrement parlant.
Affaire à suivre, alors, du coup, hein, Caps.
Absolument.
Un mot de triathlon, je crois.
Très rapidement, dernier résultat, il y avait une grosse manifestation, le triathlon du lac des Sapins, ce week-end, messieurs. Il y avait 900 bonnets de bain qui sont partis d'un seul coup à 9h30 samedi matin. Alors, dans l'épreuve classique triathlon, c'est-à-dire 1,5 km natation, 50 km de vélo, 10 km de course à pied, c'est Théo Debar qui est de Vitrolles qui s'impose. Il faisait partie des favoris. Florian Bessac du Puy-en-Velay, deuxième. Mais il y a quand même 6 minutes d'écart, hein, donc il n'y a pas photo. Et Victor Mac de Nantes. Troisième, voilà le dernier résultat que je voulais donner. Pour les grands malades, c'est-à-dire 3 km de natation, 100 km à vélo et 20 km de course à pied, le vainqueur s'appelle Gabin Mantulet, il est grenoblois, il a fait ça en 4h57, ça laisse rêveur, non?
Ouais.
Préparez vos joueurs l'année prochaine en leur faisant faire des triathlons, si vous voulez qu'ils soient physiquement
c'est
au top, non? Bon, c'était
effort.
Une blague. Voilà, moi j'ai tout dit, j'ai tout et lâché. N'oubliez pas que Mickaël Yodra sera le week-end prochain au Grand Prix de tennis à Arnas.
Avec nous,
Il viendra défendre son titre à Arnas. Il est double tenant du titre.
T'es pas obligé de lancer l'agenda parce qu'il vient de spoiler le seul événement sportif de la semaine.
Mais ça tombe très très bien. Et ben, on va profiter de cette dernière minute pour remercier déjà nos invités d'avoir été là, Xavier Moméa et Bertrand Augier du CS Villefranche-Beaujolais. Merci d'avoir été avec nous.
Mais merci à vous.
Et puis merci.
Bonne saison en Fédéral 1.
Voilà, bonne saison.
Petite promo pour la fin quand même.
Allez, vas-y.
La finale de Fédéral 2 qui se jouera quand même à Villefranche.
Parfait. N'oubliez pas la reprise du 8
septembre. C'est une finale au Haras quand même.
Oui, bien sûr.
Carrément.
Ouais, en plus, carrément, quoi. Ouais. Ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est chouette.
La ligue, elle est.
Merci Caps, merci Eddy, merci,
salut, merci à toi.
Et merci une fois plus à nos invités. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien et faites beaucoup de sport aussi. Bonne semaine.
Ciao, ciao.